Chapitre 5e. Le lendemain était un dimanche. Hélène et sa grand-mère employèrent la première partie de leur matinée à mettre de l'ordre dans leur logement. Puis, après un rapide déjeuner, elles s'habillèrent et quand le premier coup de la messe tinta, elles sortirent de la maison d'école. La distance était assez courte de la mairie à l'église. Elles ne tardèrent pas à arriver sur la grande place. Alors, à travers le réseau de son voile baissé, Hélène crut remarquer qu'elles étaient un objet de curiosité et qu'on se mettait sur les portes ou qu'on se retournait pour les voir passer. Cela était si naturel qu'elle n'y prit pas attention. De nouvelles venues dans le village, quelle affaire! Et puis on s'occupait de l'une de ces nouvelles venues et l'on devait avoir la curiosité de voir ce qu'elle était. Mais en arrivant devant l'auberge du Turc, ce ne fut plus de la curiosité qu'elle constata chez ceux qui les regardaient, ce fut de la surprise et même quelque chose comme de la colère. Sur le seuil de l'auberge se tenaient Fillette, Bonneau et Pelledieu, qui venaient de s'écarter pour livrer passage à Madame Fillette, endimanchée et prête à se rendre à l'église. En apercevant Hélène et sa grand-mère, ils avaient tous les trois levé les bras au ciel comme s'ils étaient stupéfaits. Puis tout de suite, ils s'étaient mis à causer tous en même temps, en gesticulant violemment. Hélène était trop loin d'eux pour entendre ce qu'ils disaient. Cependant, la seule chose qu'il n'y a vint jusqu'à elle. Qu'avait-il donc? Hélène les salua, mais ils étaient si bien engagés dans leur discussion qu'ils ne lui rendirent point son salut. Elle continua son chemin, sans s'inquiéter autrement de cette rencontre, et elles entrèrent dans l'église qui déjà commençait à s'emplir. Dans la nef sombre, au milieu des rayons bleus ou jaunes qui tamisaient les vitraux, on apercevait de dessous le porche, par la grande porte ouverte à deux battants, les chapeaux à plumes des bourgeoises élégantes, les rubans éclatants des riches marchandes et les bonnets de coton des paysannes se dressant raides et durs comme si, au-dessus des cheveux, ils avaient été bourrés avec du foin ou des tampons de linge. Hélène eut bien voulu trouver là un sacristain pour lui demander où elle pouvait prendre place, mais n'apercevant personne à qui s'adresser, elle introduisit sa grand-mère dans un rang de chaises devant le banc des pauvres et qui lui parut devoir appartenir au premier occupant. La foule des fidèles arriva plus pressée, se suivant sans interruption. De deux dans l'église, on entendait un bruit de sabots sur la grande place. Elles étaient rares, celles qui, en passant, ne ralentissaient point le pas pour regarder Hélène et sa grand-mère, surtout Hélène. De même, rares aussi étaient celles qui, une fois arrivées à leur prie-dieu ou à leur chaise, ne se retournaient pas pour les examiner à loisir. Alors, entre voisines, on se penchait les unes vers les autres et on entendait des chuchotements qui emplissaient l'église d'un vague murmure que couvrait de temps en temps le craquement des chaises et le glissement des pieds sur les dalles sonores. Si tous ces gens s'intéressaient si vivement à elle, Hélène, par contre, ne s'intéressait pas à eux, ne connaissant personne. Cependant, son attention fut bientôt attirée par l'arrivée des sœurs. Quelles étaient ces deux femmes qui devaient lui faire la guerre, lui avait-on dit? L'une, âgée de 45 à 50 ans, sèche, maigre, anguleuse dans toute sa personne, avait une physionomie énergique dont la rudesse s'était encore augmentée par une moustache noire qui lui ombrageait les lèvres, la sœur Philigone sûrement, celle à qui Pelledieu voulait faire la barbe. L'autre, âgée de 25 ans environ, petite, mignonne, l'air doux et angélique, avec les plus beaux yeux du monde, voilée par de longs cils blonds, la sœur Ambroisine. En les voyant passer devant elle, marchant à pas glissés, Hélène se dit que si la sœur Philigone pouvait être une femme de lutte, à coup sûr, la sœur Ambroisine ne pouvait être qu'une femme de paix, de charité, de bonté. Comme Hélène réfléchissait ainsi, il se fit un mouvement du côté de la sacristie, et entouré des enfants de chœur et des chantres, deux prêtres parurent, l'un, le curé, vieillard à cheveux blancs avec une tête ronde, au teint rougeau, à l'air bon enfant et bon vivant, l'autre, le vicaire, jeune encore, grand de taille, carré des épaules, au torse vigoureux, au visage sombre, à l'allure hésitante. En les voyant passer devant elle, mais sans pouvoir les examiner, Hélène fit à peu près la même réflexion qu'elle avait faite pour les sœurs. L'abbé Well, le curé, était bien ce que lui avait dit M. Malattiré, un brave homme, un bon homme avec qui certainement il n'y aurait pas de lutte à soutenir. L'abbé Pierrichard, au contraire, un homme inquiétant et très probablement l'adversaire redoutable que l'inspecteur lui avait signalé. Mais comme elle était depuis quelques jours à l'espérance, elle ne se troubla pas de cette première impression. Si la guerre devait éclater, et elle se flattait de l'empêcher, n'était-ce pas quelque chose que sur quatre adversaires, elle en eût deux pour elle, ou tout au moins qui seraient neutres, et l'un de ceux-là n'était-il pas précisément le maître? Elle n'avait pu les voir qu'assez mal, mais bientôt le vicaire, accompagné d'un enfant de cœur, descendit la nef pour l'aspersion de l'eau, et alors, comme il venait vers elle, elle put le mieux examiner sans être dérangée ni troublée, car tout à son ministère, il ne fixait pas ses yeux du côté du banc des pauvres. Son bras se promenait sur les fidèles qui courbaient la tête et lui marchait noblement. Ce qui frappait dans sa physionomie, c'était un air de vigueur avec quelque chose de dur qu'accentuait un front bas terminé par d'épais sourcils noirs qui se rejoignaient et formaient une ligne droite sans aucune courbure. Il l'approchait. Il n'était plus qu'à quelques pas d'Hélène. Tout à coup, il s'arrêta et resta le bras levé. Il venait de l'apercevoir, et la reconnaissant ou la devinant, il la regardait. Ce ne fut qu'un éclair qui échappa sans doute aux assistants, mais qui frappa Hélène et la remua. Après un court moment d'hésitation, le vicaire, qui était resté le bras levé, l'abaissa par un geste violent. Hélène reçut sur le visage et sur toute sa personne une pluie d'eau bénite. C'était à croire qu'il avait voulu l'exorciser, comme s'il avait eu affaire au démon en personne. Puis il tourna sur lui-même et remonta la nef. La messe commença. Hélène la suivit, sans trop se laisser distraire par les regards qui de temps en temps se fixaient sur elle et par les murmures qui arrivaient parfois jusqu'à ses oreilles. Au prône, ce fut l'abbé Périchard qui monta en chaire. Sans le regarder, Hélène le vit, et alors elle tint ses yeux obstinément baissés, l'écoutant. Cependant, à un certain moment, comme il commençait le sermon, sans avoir bien conscience de ce qu'elle faisait, machinalement, elle redressa la tête et leva ses yeux vers lui. Alors, leurs deux regards se rencontrèrent, et de ce croisement résulta un choc qui coupa la parole au vicaire. Pendant quelques secondes, il resta sans pouvoir trouver ses mots, balbutiant, s'embrouillant, et cela fut d'autant plus sensible qu'en commençant, il parlait facilement, sans chercher. Tout le monde s'était tourné vers lui, et naturellement, son embarras s'en trouva augmenté. Il y eut quelques minutes d'un silence cruel. Puis le vicaire recommença, puis de nouveau il s'embrouilla et s'arrêta. « Ce sera pour dimanche prochain, » dit-il enfin. Et il dégringola de la chaire plutôt qu'il n'en descendit au milieu de la stupéfaction générale. À l'étonnement qui se manifesta autour d'elle, Hélène comprit que c'était la première fois que pareille mésaventure arrivait au malheureux vicaire. La messe s'acheva sans autre incident, mais ce fut au milieu d'un brouhaha que s'opéra la sortie. « Qu'a donc eu, monsieur le vicaire? Comment va-t-il ? » Hélène, ne connaissant personne, ne se mêla à aucun groupe et marchant à côté de sa grand-mère sans confier attention à elle, dont la curiosité était surexcitée par la catastrophe du vicaire, elle gagna la mairie. Devant la porte de son école se tenait le trio Pelledieu, Fillette et Bonneau qu'elle avait vu devant le Turc en allant à l'église. Il paraissait l'attendre et il continuait à gesticuler comme s'il n'avait fait que cela pendant tout le temps de la messe. Pelledieu l'aborda. « La seule chose que n'y a, c'est que nous voudrions vous dire un mot si c'est possible. » Pendant que sa grand-mère montait seule au premier étage, elle les fit entrer dans la classe. « C'est relativement à la messe, » dit Pelledieu, qui était l'homme d'initiative. « Parce que nous avons été surpris de vous voir aller à l'église, » dit Fillette. C'était donc là ce qui les avait si fort émus. « Ce n'est pas faire la barbe, sœur, » dit Pelledieu. Après un premier moment de surprise, Hélène voulut se défendre et elle ne trouva rien de mieux que de le faire franchement. « Alors, messieurs, » dit-elle avec une douce fermeté, « nous nous sommes bien mal compris. Si vous avez supposé que mes intentions étaient d'entrer en lutte avec nos adversaires, en commençant par afficher des idées anti-religieuses. » Bonneau, qui n'avait jusque-là rien dit, prit vivement la parole. « Très bien, voilà ce que j'appelle une attitude politique. »« Je ne sais pas ce que c'est que vous appelez une attitude politique, » s'écria Pelledieu, « mais la seule chose qu'il y a, c'est que quand je veux faire un procès à quelqu'un, je ne vais pas chez lui. » Parce que vous n'entendez rien à la politique. Alors tant mieux pour moi, et tant pis pour vous. Je croyais que mademoiselle venait pour faire la barbe aux sœurs. Je suis fâché de voir que je me suis trompé. Et qui vous dit que vous vous êtes trompé ? S'écria Bonneau. Mademoiselle réussira mieux par la modération que par la violence.
Ce n'est pas mon genre, répliqua Pelleu. Je vais droit mon chemin.
Qu'importe d'aller tout droit ou de biais, dit Bonneau. Ce qu'il faut, c'est arriver.
Enfin, dit Fillette, en manière de conclusion, nous verrons comment mademoiselle marchera.
Et ils sortirent.
À la façon dont ils la saluèrent, Hélène vit bien que, si elle avait gardé la confiance de Bonneau, elle n'était plus pour Pelleu et pour Fillette ce qu'elle était la veille, et que l'herbager regrettait son voyage à Condé, comme l'aubergiste regrettait son souper. Sans doute, cela était fâcheux, mais cependant, quant à elle, elle ne pouvait rien regretter.